l'heure des infos de Tom Bühlmann. Bonjour Tom.
Bonjour, le HCB n'a fait plaisir à ses spectateurs hier soir. Les Célandais se sont imposés 5-3 contre le HC Lugano. On entendra l'analyse de notre consultant Marc-Alain Parot en ouverture de ce journal. Le marché d'automne de Champeau bat son plein. Le plus grand marché de ce type de Suisse romande connaît une belle renommée. Et selon ses organisateurs, son point fort est l'authenticité. C'était il y a 30 ans, la Suisse apprenait le suicide collectif d'une cinquantaine de personnes en lien avec la secte de l'ordre du Temple solaire. Nous nous replongerons dans ce fait divers également dans ce journal. Pour la météo, les nuages devraient laisser place au soleil cet après-midi. Mais pour demain, le temps sera nuageux et des averses arriveront dans le courant de l'après-midi. Il fera au maximum 15 degrés sur la région. Le HCBN a montré un beau visage avant son déplacement dans l'Emmental. Il a décroché une belle victoire contre Lugano 5-3 hier soir en National League et s'est emparé de la 9e place du classement. Mené au score, il a su renverser cette partie de fort belle manière et a su gérer son avantage. L'analyse de notre consultant Marc-Alain Parot.
Bien à tout fait juste, ils sont rentrés directement dans le match. Il y a eu très peu d'erreurs défensives. Ils ont vraiment posé leur jeu. Il y a eu des moments de flottement, mais ils ont gardé la tête froide et puis ils ont pu mettre enfin ces occasions, concrétiser ces occasions.
Et du coup, ce qu'il faut retenir et garder pour le match contre Langnau, qu'est-ce que c'est?
Toute cette confiance emmagasinée aujourd'hui, ce soir, avec tous ces premiers buts, plusieurs joueurs ont pu marquer, donc plusieurs buteurs différents du côté du HCBN, donc ça c'est quelque chose de positif à prendre pour demain.
Marc-Alain Parot que l'on retrouve sur RJB ce soir dès 19h30 au micro lors du derby Langnau-Bienne. Ce sera avec Jérémy Pignard aux commentaires. Et on reviendra sur le reste de l'actualité sportive en fin de ce journal. Le plus grand marché d'automne de Suisse romande bat son plein. La 14e édition de la manifestation de Champeau attire tout le pays, autant chez les artisans et les exposants que dans la foule. Le marché qui a lieu tous les premiers samedis d'octobre depuis plus d'une dizaine d'années bénéficie d'une belle renommée dans la Romandie. Pour le président du marché d'automne de Champeau, Johann Stöller, c'est grâce à son authenticité.
Mais je crois que c'est un petit village avec son charme, je crois. On est aussi très sélectif, ou on essaye d'être le plus sélectif possible dans le choix des exposants. Puis ça, je pense que c'est une clé de la réussite aussi. On veut vraiment rester un marché artisanal, nous ne voulons pas devenir une foire. Et c'est peut-être justement le fait qu'on reste artisanal que ça soit autant apprécié.
Vous dites que vous êtes très sélectif dans le choix des artisans. Est-ce que vous faites attention à ce qu'il n'y ait pas trop de mêmes choses qui soient présentées?
Bien sûr, on essaye, ouais. Ouais, on essaye. C'est très compliqué. Honnêtement, on a reçu environ 250 demandes cette année. Donc à trier tous les exposants, finalement, c'est un formulaire qui remplit, puis on ne sait jamais exactement ce qu'ils vendent. Donc des fois, il y en a certains qui ne rentrent pas forcément dans le cadre, qui passent entre les mailles du filet, entre guillemets. Mais on essaye d'être sélectif puis d'avoir une ligne. Ouais.
Le marché s'est aussi agrandi, c'est aussi plus de préparation pour vous derrière?
Oui, on a agrandi, effectivement, on a une vingtaine de places supplémentaires, un petit peu plus de travail, mais on en est 140 ou 160 places. La base du travail reste la même. Ouais.
Le marché d'automne de Champeau continue jusqu'à ce soir, 22h. Les Genis sont dans les starting blocks. Dans moins d'une heure, la traditionnelle des Alpes du Bouéchet se mettra en route. Une centaine de bêtes partiront de la Combe à la Biche pour rejoindre le village franc-montagnard. Depuis mi-mai, les animaux broutent l'herbe à 1200 mètres d'altitude. Et passer 6 mois à l'alpage avec les animaux, ça crée des liens, comme nous l'explique la bergère Madeleine Schmitt.
Oh, mais je les adore. C'était juste merveilleux. Parce que je ne vous ai pas crié devant la maison, parce qu'elles arrivaient tous à la barrière. C'est juste un plaisir.
Une des Alpes, c'est finalement un au revoir?
Oui, alors c'est vraiment un au revoir. Et puis il y a une partie de la vie qui s'arrête. On se dit vivement le printemps prochain.
C'est un crève-cœur aussi de les voir partir, quand, même si on sait qu'on va les retrouver dans quelques mois?
Non, c'est pas un crève-cœur. Parce qu'on sait que là, elles étaient plus bien, parce qu'on a eu un été pourri. Elles ont pataugé dans la merde, il faut appeler un chat un chat. Et puis voilà, et puis maintenant, elles retournent dans leur nid. Puis voilà.
Madeleine Schmitt qui répondait à Nicolas Meusy, le départ de la Desalpes sera donné vers 12h45 à la Combe à la Biche pour rejoindre le Bouéchet vers 14h30. La Suisse se réveillait sous le choc il y a 30 ans. Le 5 octobre 1994, 23 corps sans vie étaient retrouvés dans une ferme incendiée à Chiéry, dans le canton de Fribourg, et 25 autres dépouilles dans deux chalets en feu à Salvan, en Valais. Les enquêteurs identifient rapidement le trait d'union entre les deux faits. Une secte, l'ordre du Temple solaire, a planifié un nébuleux transit vers Sirius par le biais de suicides et d'assassinats de ses adeptes. La veille, 5 corps en lien avec l'OTS avaient été découverts à Moran Heights, au Québec. Le journaliste jurassien Arnaud Beda, décédé l'an dernier, avait enquêté sur l'ordre du Temple solaire à l'époque. En 2022, il était revenu sur les causes du massacre à l'occasion de la sortie d'un documentaire sur l'OTS. Arnaud Beda.
Ce qui explique le déclenchement de la tragédie, en fait, c'est la rencontre de deux personnages. C'est Luc Jouret, homéopathe belge, gourou du Temple solaire, avec l'autre gourou, l'autre chef, Joe Dimambro, qui est un petit escroc du midi, avec une moumoute, des gourmettes, des lunettes de soleil. Il a un look un peu plouc, hein, pour être clair. Mais ces deux personnages mis ensemble, c'est l'allumette qui allume la mèche. Enfin, mis ensemble, c'est détonnant, et c'est ça qui a amené à tous ces adeptes, ces dizaines d'adeptes, à les suivre dans leur folie.
Et le déclenchement des tueries en elles-mêmes, c'est plutôt des considérations d'ordre financier, ou est-ce que Jouret, Dimambro sentaient que le mouvement leur échappait quelque part?
Sur les causes, il y a plusieurs histoires dans l'histoire, j'ai envie de dire. Oui, ils étaient aux abois, oui, ils n'avaient plus d'argent, mais il y avait aussi toute une paranoïa qui s'était instillée dans l'esprit des gourous. Ils avaient été à leurs yeux persécutés au Canada, l'histoire de la fameuse arme qu'ils cherchaient à se procurer avec un silencieux, où ils ont été dans les radars de la Sûreté du Québec, qui à l'époque pensaient écouter un groupe terroriste, mais se sont retrouvés à écouter des gens qui déliraient sur la fin du monde. Il y a eu toute une addition d'éléments qui ont conduit à ces massacres. Il y avait d'énormes parano dans le Temple solaire. Jouret et Dimambro avaient l'impression que la Terre entière leur en voulait. Ils avaient l'impression que Mitterrand, Pasqua, tout le monde les surveillait. Alors qu'ils n'ont jamais été surveillés par personne, sauf par des policiers québécois, un peu par hasard en 92.
Aujourd'hui, est-ce que l'affaire du Temple solaire, elle comporte encore une part de mystère importante à vos yeux, ou est-ce que finalement on sait à peu près tout?
Non, on sait à peu près tout. Alors oui, dans les détails, il restera toujours des zones d'ombre. On ne saura pas exactement tout dans la manière, comment les actes ont été commis. On aurait évidemment envie de savoir, quand on s'y est passionné autant de temps, comment les gens sont morts, quels ont été leurs derniers mots. C'est ça, c'est plus des mystères de l'ordre de l'intime. Mais dans les grandes lignes et même dans les détails, on sait à peu près tout, ça c'est certain.
Le journaliste Arnaud Beda, qui avait enquêté sur la secte de l'ordre du Temple solaire à l'époque, répondait à François Comte. Les différents massacres liés à l'OTS s'étaleront sur un peu plus d'un an et demi et feront 74 morts au total en Suisse, au Québec et en France. Les combats au Liban continuent. Ce matin, l'armée israélienne a mené de nouvelles frappes dans la banlieue de Beyrouth, fief du mouvement armé Hezbollah. Ce dernier a affirmé être également engagé dans des affrontements avec les troupes israéliennes à la frontière libanaise. Par ailleurs, les casques bleus ne bougeront pas. La force intérimaire des Nations Unies déployée le long de la frontière entre Israël et le Liban maintiendra ses positions. C'est ce qu'a annoncé l'ONU aujourd'hui. Elle indique dans un communiqué que l'armée israélienne lui aurait demandé le retrait des casques bleus sur certaines de leurs positions. Une demande motivée par l'intention de l'armée de mener des incursions terrestres au Liban. La réponse de la force intérimaire de l'ONU ne s'est pas fait attendre. Les soldats de la paix maintiennent leur présence sur l'ensemble des sites.
RJB, il est 12h23.
Sport. Le ACBN repart de l'avant. Comme vous l'avez entendu en ouverture de journal, les hockeyeurs ceylandais ont regoûté à la victoire après trois revers de rang en National League. Ils ont dominé Lugano 5-3 hier à la Tissot Arena. Ce succès leur permet de grimper à la 9e place à 3 longueurs du top 6. Premier engagement pour l'HC Tramelan, les requins retrouvent la première ligue avec un déplacement à Sion à 19h. L'objectif de la saison est une qualification pour les play-offs. Les Valaisans disputeront aussi leur premier match à cette occasion. Un derby sous haute tension en deuxième ligue interrégionale de football. Le FC Ajoie Montéry accueille le FC Tavannes Tramelan à 16h sur la pelouse synthétique de Courgenay. Les deux formations de notre région pointent actuellement sous la barre à égalité de points avec une unité de retard sur le premier non relégable. Les précisions de Michel Léoni.
Avec 7 points récoltés en 7 matchs pour le FCTT et en 8 matchs pour le FCAM, le bilan intermédiaire est plutôt amer. Si rien n'est encore joué, les deux équipe serait bien inspirée de gagner ce derby pour retrouver le bon côté de la barre et espérer enclencher une dynamique positive. Les Ajoulots sont dans une période moralement difficile. Ils n'ont engrangé que 2 points lors de leurs 5 derniers matchs et à chaque sortie, il y a des regrets. Celui d'avoir vu l'adversaire revenir alors qu'Ajoie Montéry menait ou celui d'avoir encaissé en toute fin de rencontre. Du côté de Tavannes Tramelan, il faudra avant tout digérer la défaite 6-5 de mercredi contre Mourigou Milling Groningen. Il faudra surtout colmater les nombreuses brèches défensives et le manque de maîtrise observé contre les Bernois. Il faudra aussi renouer avec une certaine solidité défensive qui fait souvent la force du FCTT.
Ce duel entre le FC Ajoie-Monterrey et le FC Tavannes-Tremblant commence à 16h à Courgenay. Vous entendrez des réactions demain dans le journal de 12h15. Le FC Bézabienne doit lui éviter la contre-performance pour garder sa place sur le podium. Troisième après deux matchs nuls, les footballeurs ceylandais reçoivent Dietikon qui figure dans la deuxième moitié du tableau à 16h également. Francesco Bagnaia remporte la course sprint du Grand Prix de Japon du MotoGP. L'Italien a profité d'une chute de Pedro Acosta et revient ainsi à 15 points du leader du championnat du monde Jorge Martin, quatrième aujourd'hui à Montegui. Merci de votre écoute et je vous souhaite un bon après-midi.